Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vous ne savez plus quoi faire pour faire décoller votre contenu. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 583. J'espère que vous avez bien, que vous avez la forme, la patate, de l'énergie, que vous avez passé un bon week-end, peut-être un long week-end, et que vous avez eu plein d'idées pour créer du contenu. Maintenant, vous vous demandez comment vous allez le développer. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un état d'esprit qu'on doit avoir avec ces nouveaux contenus que vous allez développer. Oui, vous savez peut-être pas s'ils vont marcher, pas marcher, etc. Et donc, vous vous posez la question de savoir, mais je dois les faire, je dois pas les faire. Comment je vais faire? Parce que dans la création, le plus difficile, c'est de trouver l'alignement parfait, l'alignement entre ce que vous avez en tête, ce que vous voulez faire, ce que vous arrivez à faire et votre audience. Alors, souvent, quand ça marche pas très bien, on va accuser les plateformes, les algos, les outils, les concurrents et même son audience de ne pas nous comprendre. Ils nous aident pas, tout simplement, ils veulent même qu'on se plante. Et oui, combien de personnes accusent l'algorithme de YouTube, de Facebook, d'Instagram ou je ne sais pas qui, de tout faire pour qu'on se plante? Et je l'ai encore entendu il y a quelques heures, il y a 2-3 jours. Oui, on va compter encore en heures, on va dire. Il y a, 72 heures et 30 minutes environ, quelqu'un qui disait oui, mais vous savez que l'algorithme, de YouTube, ou d'Instagram, il est pas là pour vous aider, il est vraiment là pour vendre de la pub. Je vous ai dit ce que je pense sur les algorithmes sont nos amis, mais on doit être notre premier ami, et être notre premier ami dans notre contenu, en fait, c'est de regarder les choses droit dans les yeux. Et la réalité des choses, c'est que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est que nous ratons un petit élément, il y a quelque chose que nous ne voyons pas, que nous n'arrivons pas à trouver. Quelque chose entre l'alignement, entre nous, notre contenu, nos audiences potentielles, nos clients, il y a un élément qui cloche, quelque chose qui ne s'aligne pas. Voilà, c'est vraiment une question d'alignement. Et souvent, en fait, on le rate parce que on ne veut pas regarder les choses comme il faut. On ne cherche pas, voilà. Il est difficile de savoir ce que c'est exactement, mais souvent, on fait pas l'effort de le chercher ou de le chercher suffisamment. En fait, nous commençons à faire quelque chose. On fait un contenu, 2 contenus, 3 contenus, on se dit ça marche pas, etc. Mais si je continue ainsi, à un moment donné, ça va finir par marcher, forcément. Alors nous recommençons encore et encore. Et puis on a de l'attachement, et puis voilà, on dit mais je suis attaché à ça, etc. Je vais continuer à le faire comme ça, c'est pas le moment de lâcher, je sais que ça va finir par passer, etc. J'ai même lu des fois dans des groupes Facebook quelqu'un qui disait mais de toute façon, quand tu auras fait 100 contenus, au bout du 100e, forcément il y en aura un qui aura marché. Oui, mais est-ce que ça veut pas dire qu'on pourrait pas améliorer un petit peu les choses avant? Je vais reprendre la fameuse citation attribuée à Albert Einstein. La folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et c'est vraiment ça l'état d'esprit que nous devons avoir en tant que créateur de contenu, en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment de se dire que finalement, si on fait toujours la même chose, il est relativement logique que ça ne marche pas. Si la première chose que l'on a fait ne marche pas et qu'on refait ça 10 fois, pourquoi la 10e fois marcherait mieux que la première? Alors bien entendu, on va se dire c'est une question de thématique, j'ai fait un peu évolué mathématique, c'est une question de timing, c'est une question de ça, etc. Mais en fait, la démarche adoptée, elle est beaucoup plus scientifique que ça, vraiment scientifique. La première, c'est on essaie les choses. 2, on échoue et on accepte d'échouer. Il faut accepter d'échouer. Parce que des fois, ça peut marcher, mais des fois, et beaucoup de fois, ça ne marche pas. On pourrait dire le fameux 80-20. Sur une chaîne YouTube, vous avez toujours quelque chose dans la même logique. Il y a toujours 1 ou 2 vidéos qui vous créent 80% des résultats. Et on peut se dire, c'est génial, etc. Super, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? On regarde pourquoi ça a marché. Que vous ayez un échec ou vous ayez une réussite, dans tous les cas, il faut analyser ce qui marche et ce qui ne marche pas. Pourquoi ça marche? Pourquoi ça ne marche pas? Et à partir de là, on ajuste pour essayer à nouveau. Même si parfois ça peut sembler rébarbatif de le faire, il faut passer du temps à analyser. On n'est pas que dans la création. La partie création, je le disais, ce n'est pas juste créer une vidéo, créer un podcast, écrire un blog ou je ne sais quoi. C'est de s'occuper de tout ce qu'il y a autour. Et tout ce qu'il y a autour, c'est aussi d'analyser. Ce qui se passe après, qu'est-ce qui s'est passé après la publication? Et cette démarche de essayer, échouer, analyser, ajuster, elle exprime exactement cette logique-là qu'on doit avoir. C'est vraiment celle de se dire que On ne peut pas tout savoir du premier coup de ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, mais ça ne doit pas nous empêcher d'essayer, et on doit se dire, bah oui, je peux échouer, et si j'échoue, ce n'est pas grave, mais je dois en faire quelque chose. Si je réussis, tant mieux, mais je dois aussi en faire quelque chose. Et donc, on a toujours des nouvelles choses à essayer. On a toujours un nouveau truc qu'on peut essayer. Il y a toujours quelque chose qu'on va voir chez les autres, et on peut pas réussir tout du premier coup. C'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose que ça marchait pour lui que ça marchera pour nous, mais c'est pas parce que quelque chose n'a pas marché chez le voisin que ça ne peut pas marcher chez nous. Le seul moyen de le savoir, c'est d'essayer. Et en fait, ce qu'on doit faire, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie quelque chose, on doit être en mesure de récupérer des données pour ajuster ensuite. On doit faire l'effort de récupérer des données. Ces données, c'est quoi ? C'est des retours, des commentaires, des statistiques, bien entendu. Alors, selon les outils, c'est plus ou moins simple, hein, soyons honnêtes. Il y a des outils dans lesquels c'est très simple. YouTube donne des analyses détaillées en quelques minutes. Les analytics dans votre YouTube Studio donnent tout quelques minutes après. Vous avez du temps réel, etc. Vous avez tous les éléments qui vont de savoir si la vidéo est apparue dans les recherches, si elle est apparue en recommandation, si les gens ont cliqué sur la vignette, s'ils ont regardé la vidéo au bout de 10 secondes, 15 secondes, combien de pourcentage des gens ont lâché au bout des 30 premières secondes, combien de pourcentage des gens ont regardé jusqu'à la fin, etc. Tout, vous avez tout. Donc, à partir de là, quand vous publiez une vidéo sur YouTube, dites-vous que derrière, le boulot à faire, c'est de regarder dans les heures qui viennent ce qui se passe, mais aussi de regarder quelques temps après ce qui s'est passé, et puis de regarder vos anciennes vidéos, celles qui ont bien marché, de regarder aussi, par exemple, les vidéos qui auraient plus de 1 an ou 2 ans, et de se demander pourquoi est-ce que celle-ci génère encore du trafic et pourquoi les autres ne génèrent pas du trafic. Est-ce que c'est une question de contenu? Est-ce que c'est une question de manière dont vous l'avez faite? Est-ce que finalement vous vous rendez compte que les gens sont restés plus longtemps sur la vidéo? Donc, il faut arriver à analyser. Et à partir de l'analyse que vous allez faire, si vous vous rendez compte que c'est un format qui marche bien, bah vous allez recommencer. Si c'est une thématique qui marche bien, vous allez recommencer. Vous allez me demander comment vous allez relier les choses. Mais quand vous regardez sur des vidéos qui n'ont pas du tout marché, vous posez la question de finalement, pourquoi ça n'a pas marché. Sur les réseaux sociaux, on a certains éléments, mais beaucoup moins détaillés. Par exemple, sur Instagram, vous êtes incapable de savoir si c'est un hashtag ou un autre qui a apporté du trafic. Oui, parce que des fois, il y a des vidéos qui, des photos, ça peut être aussi des vidéos, qui fonctionnent mieux que d'autres. Mais en fait, sur Instagram, on a beaucoup de mal à savoir, par exemple, si ça pourrait être un hashtag. Alors, il vous dit nombre de visites générées par les hashtags. Oui, mais il vous dit pas quel est le hashtag qui a bien fonctionné. Ça peut être un hashtag que vous utilisez pour la première fois, va peut-être marcher, mais peut-être aussi que c'est une conjonction de certains hashtags qui font que ça marche bien. Ça peut être un lien par rapport à des réactions, etc. Il peut y avoir plein d'éléments qui vont faire que, finalement, sur une photo ou une vidéo sur Instagram, on n'est pas certain d'être capable de répliquer parce que sur les statistiques, on n'a pas tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les regarder. Ça veut dire que quelque part, on doit faire des tableaux, on doit regarder en se disant, quand même, je me rends compte que j'ai sorti, 20 photos. Sur ces 20 photos-là, il y en a 5 qui ont mieux marché que d'autres. Et comme par hasard, les 5 qui ont mieux marché étaient sur telle thématique, ou alors j'étais dans telle situation, ou alors j'ai utilisé tel mot-clé, et voilà. Donc, il y a toujours, à un moment donné, on peut arriver à rentrer dans ce bout d'analyse-là, on l'aura un petit peu. Mais c'est vrai qu'on l'aura moins que sur YouTube. Sur le blog, on en a des analyses qui peuvent être très complètes, parce que Google Analytics, notamment, mais il y a d'autres plateformes d'analyse, mais Google Analytics, parce que je pense que vous l'avez tous, et moi le premier, hein, on a tous du Google Analytics, même si on voudrait bien s'en débarrasser certaines fois, on en a tous. Bon, quand on regarde l'analyse de notre blog, etc., on a tout un tas de données. Il manque certains éléments. Hein. Il fut une époque, à la grande époque, on savait exactement quels étaient les mots recherchés, quels mots recherchés nous amenaient quel volume de trafic, sur quel article, etc. Là, il y a des choses qui nous manquent. Et puis, il y a toujours cette idée que ça met du temps. Hein. Quand vous publiez quelque chose aujourd'hui, vous n'aurez pas forcément une statistique demain ou après-demain très précise sur cet article-là. Sauf si vous avez un très gros trafic sur votre blog, il y a des gens qui viennent vraiment tous les jours, mais il y a des contenus qui vont mettre du temps à se placer, parce qu'il y a les notions de référencement, etc. Donc, ce chiffre-là, ces données-là, on les a. On les a peut-être moins précises que sur YouTube. On les a aussi d'une manière, j'ai envie de dire, qui est peut-être un peu plus longue, hein, mais par contre, sur du long terme, si vous avez un blog depuis longtemps, vous êtes capable de savoir quels sont les articles qui marchent mieux, quelles sont les thématiques, quelles sont les catégories, pourquoi, etc., que font les gens et d'où ils viennent. Bon, ça, c'est fait. Ça, on l'a. Sur le podcast, j'ai envie de dire que c'est un petit peu mitigé, parce que les statistiques du podcast, on a quelques outils, iTunes et Spotify donnent bien quelques informations, Deezer aussi, mais on est souvent sur ce qui reste de la vanity metrics, c'est souvent finalement qui a écouté, combien on a eu d'écoutes ou de téléchargements, enfin de téléchargement, c'est même pas des écoutes. Sur certaines plateformes comme Apple et sur Spotify, on va avoir le temps d'écoute au global, hein, combien de gens ont démarré la lecture et puis combien de temps de gens sont arrivés jusqu'au bout, donc le pourcentage, ça on l'aura. Mais franchement, comment les gens ont découvert le podcast, vous l'avez moins, vous avez moins certains éléments, pourquoi certains épisodes marchent mieux que d'autres, etc. C'est à vous aussi de regarder un petit peu dans vos tableaux, de vous faire des petits tableaux, d'avoir la connaissance en fait de votre podcast très précise, de savoir qu'il y a des choses qui vont mieux marcher que d'autres. Mais ça, on peut le faire assez facilement parce que au fur et à mesure qu'on fait des épisodes, qu'on essaie de faire des choses, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui marchent mieux. Moi, je sais par exemple sur Kilomètre 42, tout ce qui est FAQ, je l'avais dit à un annonceur, j'avais dit franchement, si on veut qu'un épisode il marche mieux, il vaut mieux faire une foire aux questions. Enfin, c'est intéressant de faire une foire aux questions parce que on sait aussi que dans une foire aux questions, je le sais en tout cas pour moi, quand je dis on, c'est moi hein, dans ce cas-là, je sais qu'en faisant une foire aux questions, je sais que je suis capable de créer plus d'interactions avant et que j'ai plus d'interactions autour de l'épisode et qu'il y a plus de visibilité parce que les gens ils sont curieux d'avoir la réponse à leurs questions. Et donc que sur la foire aux questions, je sais que j'ai plus de chances d'avoir une visibilité plus importante et d'avoir une écoute sur l'ensemble de l'épisode, tout simplement parce que eh ben là ça répond vraiment à des questions que les gens se posent et donc ils sont encore plus curieux de voir ce qu'il y a dedans. Bon, ben ça, ça veut dire que quand on sait cette information-là, quand vous l'avez enregistrée, quand vous l'avez mesurée, quand vous êtes capable de voir, par exemple, vous avez trois foires aux questions, que systématiquement ces foires aux questions elles ont plus de succès, plus d'écoute, plus de retours, etc. Bon, ben ça veut dire que c'est un format sur lequel vous devez travailler, miser, que vous pouvez en refaire régulièrement. Sur le mail, c'est assez simple et rapide. Si vous faites de l'emailing, vous savez que les plateformes vous donnent toutes les stats et puis dès que c'est parti, en quelques heures, vous avez les résultats. Vous savez combien de gens ont ouvert, combien de gens ont cliqué, sur quel lien ils ont cliqué, combien de fois ils ont cliqué, etc. Bon, ça, vous avez tout assez facilement. Et quand on parle de vente de produits, bah, les indicateurs sont assez vite déterminés, notamment de savoir combien de personnes ont acheté le produit. Mais en fait, il y a d'autres indicateurs, c'est la analytics et autres sont intéressants. Notamment, c'est le taux de personnes qui ont vu une fiche produit et le taux de personnes qui finalement l'achètent. Hein, et pourquoi est-ce qu'ils achèteraient, pourquoi ils n'achèteraient pas? À quel moment ça bloque dans le processus? Est-ce que c'est au moment où ils regardent le prix? Est-ce que c'est au moment de payer? Est-ce que c'est... Il y a plein d'éléments sur la vente d'un produit quand on a fait du e-commerce. Moi, je sais qu'avec ma femme, sur le e-commerce par rapport à Chacun Club, quand on vendait du thé, il y a des moments où on se disait, ça peut être sur le paiement. On savait qu'il y a eu des moments, par exemple, sur le paiement, les modes de paiement, etc., qu'il y avait des choses qui bloquaient, qu'il y a des paiements qui facilitaient les choses que d'autres. Je vous donne un exemple très simple, parce que c'est quelque chose qu'on a dit à plusieurs personnes qui ne nous croyaient pas. On peut être contre PayPal, on peut trouver que les frais de PayPal sont exorbitants, etc. N'empêche, hein, que dans certains domaines, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de ventes par PayPal, que ce n'est pas très étonnant parce que PayPal sécurise aussi les gens par certains aspects, notamment par le fait qu'ils fassent beaucoup de pubs en disant, bah, si vous avez un problème, on va vous aider à vous faire rembourser, enfin voilà, c'est facile à suivre, il y a plein d'indicateurs, etc. Ça vous évite de donner votre carte bleue à plein de gens donc quand vous n'avez pas confiance. C'est même plus facile de faire par l'application que de sortir sa carte bleue à chaque fois. Enfin, vous voyez, il y a plein de notions qui sont comme ça. Et donc, qu'il y a un moment donné, c'est que quand on a mis du PayPal et qu'on se rend compte que ben il y a, je sais pas, 60% de ventes qui sont par PayPal, ben ça veut dire que quelque part, ça fait partie des arguments qui sont intéressants et que si on enlève PayPal, ben qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens commandent ou est-ce qu'ils commandent pas? Ben j'ai envie de dire. Ça peut se tester, mais en tout cas, ça se constate. Hein, si vous avez 60% de vos ventes qui passent par PayPal, vous n'allez peut-être pas enlever PayPal comme ça en vous disant « Oui, je veux faire un test », de voir si toutes les autres personnes vont bien passer pour. Mais à la limite, j'ai envie de dire, ça vaudrait le coup. Ça vaudrait le coup de savoir si en ajoutant un nouveau moyen de paiement, est-ce que les gens vont l'utiliser, est-ce que ça change quelque chose, est-ce que ça augmente vos pourcentages de ventes, etc. Donc, les exemples que je viens de vous donner sont assez nombreux pour que vous compreniez un petit peu la logique de dire que finalement, hein, on a les outils pour analyser un petit peu ce qui se passe. Et donc, à partir de là, on va ajuster. On se rend compte qu'une vidéo sur YouTube fonctionne bien. Ben, pourquoi elle fonctionne bien? Est-ce que c'est que elle s'est bien positionnée sur les recherches? Et donc, à partir de là, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu suffisamment de clics sur la photo? Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans l'épisode de la semaine dernière, que tout commence par un clic hein, dans cette histoire-là. Si les gens commencent à cliquer sur le titre ou sur la vignette de votre vidéo sur YouTube, bon, ben, c'est, vous avez une chance qu'ils regardent la vidéo. Ensuite, vous vous rendez compte qu'ils ont regardé la vidéo, oui, non, etc. Tout ça, vous pouvez le savoir. Et donc, à partir de là, vous allez ajuster. Si vous vous rendez compte, par exemple, je vais vous donner un exemple qui est lié au podcast. J'ai regardé l'autre jour les vidéos du podcast quand je l'ai publié les vidéos le même jour. Vous savez, quand tous les vendredis je publiais l'épisode et en même temps je publiais sur YouTube la vidéo du podcast filmé. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que systématiquement les vidéos du podcast avaient ce que j'appelle la chute, on pourrait placer la chute du Niagara. C'est une chute vertigineuse. Dans les premières secondes, dans les toutes premières secondes, il y avait une chute vertigineuse. C'est-à-dire que on passe de 100% d'écoute à 30% d'écoute dans les 30 premières secondes. Et là, c'est un truc, ça ne peut pas, il ne peut y avoir aucune vidéo sur YouTube, ne peut avoir du succès quand on a ça. Alors qu'à l'inverse, dans le podcast, j'avais un taux d'écoute de 96, 90, 98%. Il y a même des épisodes qui sont marqués à 102% dans certains outils statistiques. Ce qui est extrêmement étrange, mais ça, c'est pas le sujet du jour. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un épisode audio du podcast fonctionnait très bien, alors que sur YouTube, en vidéo, il ne fonctionne pas. Est-ce que c'est par rapport à l'adéquation entre ce que les gens s'attendaient à trouver? Est-ce que c'est par rapport à la vignette? Est-ce que c'est par rapport au format? Est-ce que c'est par rapport à l'introduction, qui est un peu différente, parce que forcément sur le podcast, j'ai l'introduction qui est différente par rapport à YouTube, où j'introduis le sujet un petit peu plus tard, où j'ai l'accroche qui est un petit peu différente, etc. Bref, toujours est-il que quand je regardais, j'ai pas regardé 50 vidéos, j'ai regardé les stats de 10 vidéos, et sur la première, je constate un truc, j'ai dit tiens, je constate, sur le deuxième, je constate pareil. Les 10 vidéos que j'ai regardées du podcast que j'avais publié sur YouTube, systématiquement, avait un taux, alors vous savez ce qui est facile, ce qui est intéressant à regarder, ce serait le taux à 50% et le taux à 30%. 50% c'est jusqu'à quel moment vous avez que 50% des gens regardent votre vidéo et jusqu'à quel moment 30% des gens la regardent encore. Enfin, il reste encore 30%. Bon, quand vous avez 50% des gens qui sont partis dans les premières secondes, franchement, vous pouvez pas dire que c'est un succès. Alors bien sûr, après vous allez me dire oui, mais le reste, il reste jusqu'au bout. Oui, bien sûr, mais même si les gens restent jusqu'au bout, quand vous partez à 50% au bout de 30 secondes sont partis, et ben 25 minutes plus tard, il reste pas grand monde. Voilà, c'est la réalité. Et donc c'est moins intéressant et donc ça pose des questions. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à le faire? Mais ça pose aussi une question, est-ce que ces vidéos-là ne plombent pas tout simplement la chaîne YouTube? Parce que dans l'algorithme de YouTube, on montre quand même à YouTube que finalement, on poste plein de vidéos qui ne marchent pas et que on a l'impression qu'on sait qu'elles marchent pas puisqu'on les refait systématiquement. Et donc quelque part, bah, il va se poser plus de questions en se disant, bah oui, mais finalement, il y a plein de vidéos qui ne sont pas intéressantes, qu'est-ce que j'en fais, etc. Comment je vais les considérer? Et à côté de ça, il y a des vidéos qui semblent avoir plus de succès, qu'est-ce que j'en fais, comment je les positionne, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'analyse, elle est intéressante, mais qu'il faut avoir cette démarche. Il faut dire, voilà, je vais analyser, je vais prendre le temps d'essayer des choses, je me donne le droit d'échouer, j'analyse ce qui se passe et j'ajuste. Et on fait ça quotidiennement sur chaque contenu que l'on fait. Enfin, quotidiennement dans la démarche, et puis sur chaque contenu que l'on fait, on essaye quelque chose, on regarde si ça marche, si ça marche pas, on comprend pourquoi ça marche pas, et on ajuste pour faire le contenu suivant. Et ben, c'est exactement la démarche du contenu minimum viable, ce que je vous ai donné. Ça fait 4 ans que je vous raconte la même chose, en fait, mais je vous le dis juste de manière différente, je vous le rappelle de manière différente, je vous donne des exemples différents, mais on est toujours dans cette même logique-là, et c'est aussi pour ça que je dis notamment dans ma formation sur le podcasting, il y a un truc, un conseil que je ne donne jamais aux gens, c'est de dire faites 10 épisodes de votre podcast avant de publier le premier, ou alors faites d'abord les 5 premiers épisodes avant de publier le premier. Moi je dis toujours un truc, c'est vous commencez par faire un teaser, puis vous publiez le premier épisode pour avoir les premiers retours, et à partir des premiers retours, vous allez pouvoir commencer à faire évoluer déjà pour le deuxième épisode, puis pour le troisième, puis pour le quatrième, etc. Certains vous donneront le conseil de dire il faut faire un stock de 5, 6, 7, 10 épisodes avant de publier le premier, et puis vous publiez tout en masse ou en programmation, etc. Le seul truc, c'est que quand il y a quelqu'un, ou quand vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui marche pas très bien dans le premier épisode, et que vous avez déjà fait les 7, 8, 9, 10 suivants, et ben vous pouvez pas ajuster avant le 11e ou le 12e, et ça c'est vraiment dommage. C'est pour ça que moi je suis vraiment, vraiment, vraiment dans cette logique de contenu minimum viable, c'est on fait un contenu, on regarde ce qui se passe dessus, on l'analyse, on ajuste, et puis voilà, et c'est parti, on recommence ça à chaque contenu. Voilà, il est maintenant temps pour moi de fermer ma bouche en espérant que vous ouvriez la voie pour créer du contenu, et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.